Courrier cadre, l'entretien.
Originaire de Valence, Anne-Sophie Pic et David Sinapian gèrent à deux depuis bientôt 30 ans leur entreprise de 500 collaborateurs. Elle en cuisine, portant la créativité et l'innovation, lui côté organisation, déployant les activités dans plusieurs pays. Leur leadership complémentaire repose sur la passion et l'excellence. Stéphanie Condis les a rencontrés à la maison mère valentinoise, un entretien réalisé pour Courrier Cadre.
Bonjour David, bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à la Maison Pic à Valence. Donc je voulais faire un petit peu un retour en arrière. Ça fait 30 ans que vous êtes à la tête de cette belle maison, troisième génération de restaurant 3 étoiles. Et je voulais savoir en fait comment vous vous êtes organisé pour diriger en duo cette maison depuis 30 ans. Est-ce que les choses ont évolué au fil des années? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on travaille à deux?
Je pense que ce qui nous qualifie tous les deux et ce qui fait qu'on travaille bien ensemble, même si la maison est souvent, nos collaborateurs disent qu'elle est bicéphale, donc avec une réflexion portée par David qui est ici dans ce périmètre très organisé et une autre réflexion qui est donc dans la production, dans la créativité, dans la maison mère qui, pour ma part, c'est finalement la liberté. C'est-à-dire que tous les deux, on est quand même empreint de liberté, même si on n'est jamais complètement libre, on le sait bien. Mais on a essayé de mener notre entreprise avec les contraintes de l'entreprise, les contraintes du moment qu'on a vécu à chaque âge, entre guillemets, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes à 20 ans, qu'à 30, qu'à 40 ou qu'à 50 ans, et qu'on a toujours fait dans un esprit de liberté de pouvoir pousser les limites au maximum de cette liberté, que ce soit dans la liberté d'entreprendre ou la liberté aussi de choisir, d'être choisi par nos collaborateurs, enfin voilà, une forme qui nous caractérise particulièrement.
Et donc le duo s'est formé comme ça, chacun sa répartition, mais en même temps complémentaire. Une direction bicéphale, comment on gère ça en termes de leadership justement? Parce que parfois ça peut paraître plus simple qu'il y ait un seul leader, mais quand il y en a deux, comment faites-vous?
En fait, les choses ne se sont pas posées de cette façon-là. Pour ma part, il était très clair pour moi que je devais mettre en œuvre un certain nombre de choses pour qu'Anne-Sophie puisse exprimer sa créativité en toute sérénité. Voilà, ça c'était pour moi la clé de départ. Après, libre à moi de réfléchir à la façon d'organiser l'entreprise. Il est clair que toute la partie administrative, organisation et puis développement par la suite, c'est mon registre. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est qu'Anne-Sophie puisse se consacrer exclusivement à la créativité et à l'animation de tout ce groupe de collaborateurs autour d'elle pour s'exprimer et puis construire son identité culinaire. C'était le challenge de départ. Puis après, on est très complémentaires, mais c'est assez surprenant d'ailleurs. Finalement, sans concerté, on arrive souvent à faire les mêmes choix. Donc ça prouve qu'on...
C'est très fusionnel aussi dans notre façon de voir les choses, dans notre vision de l'entreprise aussi, et nos choix personnels, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
Et puis quand on n'est pas d'accord, c'est là où c'est intéressant, c'est d'arriver à porter des arguments pour finalement basculer d'un côté ou de l'autre. Mais ça se fait très naturellement à chaque fois.
Et ça, c'est un moyen de renforcer le leadership aussi, d'argumenter. Finalement, ça permet en amont d'avoir ces réflexions. C'est quelque chose de plus solide, j'imagine, par conséquent.
Alors, ça nous rend extrêmement solides dans cet univers. On est, je pense, la seule organisation qui est bicéphale avec deux acteurs très complémentaires l'un et l'autre. Dans l'industrie de la restauration à notre niveau, on n'a pas d'autres exemples comme ça. Et c'est vrai que c'est une force pour nous. Parce que d'abord, on est atypique. D'abord aussi parce que finalement, je fais en sorte de pousser mon épouse dans cet univers-là et de l'accompagner du mieux possible en acceptant d'être à ses côtés, mais peut-être parfois un pas en arrière. Et ça ne me gêne pas du tout. Même si aujourd'hui, j'ai un rôle reconnu dans l'industrie de la restauration, du fait d'avoir réussi à accompagner Anne-Sophie dans sa carrière et d'avoir construit un groupe de 500 personnes avec 10 restaurants aujourd'hui. Mais bon, c'est un... En fait, il fallait que chacun reste à sa place en respectant le travail de l'autre. Et c'est ce qu'on a fait dès le départ.
Alors après, il y a d'autres duos hein, dans la profession quand même qui existent. On n'est pas le seul duo à exister, mais en étant propriétaire encore, en tout cas...
Ou l'épouse est en cuisine, si.
Oui.
Si, si. Non, mais...
Bah oui, c'est vrai.
Je vois pas d'autres... je vois pas d'autres couples organisés comme nous.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu unique comme
d'autres suivront, certainement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on a commencé à fonctionner comme ça.
Avec une complémentarité aussi forte dans les deux... dans ce rôle bicéphale de la maison, la création et l'organisation. Oui, c'est vrai que c'est un peu unique. Mais en fait, on se rend même pas compte... Moi, je fais pas ce recul sur nous, sur notre travail. Moi, ce qui compte, c'est le moment présent et l'avancement, en fait.
Et moi, je voulais un groupe très structuré. Donc, quand on a... En fait, on a plusieurs étapes dans notre carrière, dans notre histoire. La reconquête des 3 étoiles. C'était l'objectif qu'on s'était fixé lorsqu'on est arrivé, lorsque la maison a perdu la 3e étoile et le projet qu'on a commencé à construire avec nos équipes, ça c'est important parce qu'on ne construit rien tout seul. On a à chaque fois été accompagné par des collaborateurs de très grande qualité qui ont fait un bout de chemin avec nous. Certains ont eu un parcours plus ou moins long avec nous, mais en tout cas, c'est grâce à tous ces gens-là qu'on est arrivé à construire ça. Après, il y a eu la réflexion sur le développement. Lorsqu'on a eu 3 étoiles en 2007, on a fait le choix de démarrer une stratégie de développement qu'on a voulu très prudente et très organisée. On a eu, lorsqu'Anne-Sophie a décroché 3 étoiles en 2007, on a eu un nombre incroyable de sollicitations. Et je crois que la force, à ce moment-là, était de savoir dire non pour ne pas s'éparpiller et partir sur des projets qui, finalement, n'auraient pas eu de sens pour nous. Donc, la première fois qu'on s'est développé, c'est au sein du Beaurivage Palace à Lausanne, donc 2 ans après l'obtention des 3 étoiles. Et puis ensuite, on a réfléchi à la façon dont il fallait le faire, comment il fallait le faire, où est-ce qu'il fallait aller. On a toujours mené de front le développement extérieur, mais aussi la construction, la rénovation de notre maison et des développements sur notre territoire. C'était pour nous essentiel parce que c'est une maison de province qui doit fonctionner avec une clientèle locale très forte et qui a besoin aussi de voir évoluer la maison dans laquelle elle a l'habitude d'aller.
Et alors donc un développement international, ça signifie un management multiculturel. Comment ça se passe en fait aujourd'hui donc à Singapour, bientôt l'année prochaine à Dubaï, avec j'imagine des profils français mais aussi étrangers, et des clients français et étrangers. Donc c'est à la fois côté clientèle et côté collaborateur qu'il faut gérer ce pluralisme. Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est une problématique rencontrée par plein d'entreprises.
Ben, là, de mon point de vue, c'est même ce qu'il y a de plus pétillant et de plus intéressant justement dans ce développement, c'est l'adaptation en fait à des terroirs, à des lieux, à des cultures différentes. Et c'est aussi très enrichissant de découvrir toutes ces cultures, se les réapproprier à sa façon. Il ne faut pas perdre son ADN dans les restaurants qu'on ouvre à l'extérieur. Mais il y a ce sens de l'adaptation, tout ce travail en amont de réflexion qui est vraiment très très intéressant et qui est très pourvoyeur de nouvelles connaissances, de curiosité, de pousser les limites de nos compétences. Il faut trouver aussi l'humain, entre guillemets, les collaborateurs qui sont aussi capables de nous suivre dans cette aventure. Mais pour nous, c'est une occasion aussi de les promouvoir, de les faire grandir. Donc il n'y a que des côtés positifs. Après, il ne faut pas perdre son âme. C'est vrai, c'est ce que disait David, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir pour faire du business partout et être présent partout. Et on peut aussi le faire d'une façon, entre guillemets, plus régulée, plus en fonction des coups de cœur aussi pour les lieux qu'on va nous proposer. Et l'adéquation qu'on peut avoir aussi avec les personnes qui vont nous proposer ces projets. Donc ça, c'est vraiment lui qui au départ crée ce premier lien et qui va juger de cette capacité d'opération pour nous dans ces lieux. Mais en fait, c'est assez magique justement d'ouvrir des nouveaux lieux et de s'adapter.
Oui, et puis de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un restaurant, déjà aucun de nos restaurants n'a fermé. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ça prouve le sérieux avec lequel on envisage l'ouverture d'un restaurant. Et puis là, on rejoint le troisième volet de notre histoire aussi. C'est cette organisation le développement, puis après l'organisation. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, vous êtes au Carré de Pique, donc c'est le siège social du groupe, ce qui est aussi le témoignage de notre organisation avec toutes les fonctions support qui m'accompagnent dans la gestion quotidienne du groupe. Et c'est d'ici que naissent tous les projets de développement. C'est ici que l'on reçoit nos partenaires et c'est d'ici que l'on communique avec toutes nos équipes à travers la visioconférence et tous les outils pour lesquels on a pris l'habitude d'utiliser après les deux années qu'on vient de passer. Donc c'est un travail très progressif et minutieux de mise en place d'une organisation qui soit performante, efficace et surtout qui mette en valeur et qui accompagne l'humain. Voilà, c'est très important pour nous, je voulais un cadre de travail très agréable. Lorsqu'on est arrivé ici il y a 3 ans, j'avais dû sacrifier des chambres d'hôtel pour en faire des bureaux. Donc les conditions de travail étaient loin d'être optimales. Et c'est vrai que d'arriver ici et de recevoir des futurs collaborateurs ici, ça prouve le sérieux avec lequel on dirige notre groupe. Et ce qui est assez un peu unique aussi dans notre profession, parce que beaucoup de maisons reçoivent dans les salons de l'hôtel, autour de la table dans la cuisine ou dans la salle de restaurant. Et nous, on voulait justement déconnecter l'ambition de notre groupe de la Maison Pique, finalement, puisque la Maison Pique, c'est un outil de travail, c'est un lieu d'accueil de nos clients et ce n'est pas forcément un lieu de construction de projets pour nos collaborateurs. Donc ça, c'était aussi un point important pour nous, d'avoir cette image très professionnelle et de la construire autour de ce lieu à 300 mètres du restaurant.
Et puis on a aussi cette capacité d'affiner les choses à l'extrême, comme tu disais, minutieux. Quand on parle de minutie, c'est ça, c'est-à-dire qu'on affine notre façon de travailler sur les restaurants, on se sert aussi de cette expérience qu'on a, parce que finalement l'expérience, ça a ce bon côté-là de pouvoir prendre un chemin. On a déjà essayé un chemin, on en prend un autre parce qu'on sait que celui-ci sera plus simple, plus facile, plus direct, meilleur pour le client, pour nos équipes. Donc c'est très intéressant d'affiner tout ça vraiment au détail. Et il faut avoir un peu de recul sur les ouvertures pour pouvoir aussi avoir ce savoir-faire, entre guillemets, d'ouverture qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ans, mais qu'on a aujourd'hui. On a vraiment beaucoup progressé aussi sur cette capacité-là.
Et puis un point très important, dans tous nos restaurants, nous avons, ce sont toujours des, surtout en cuisine, des collaborateurs qui ont déjà une histoire avec Anne-Sophie qui dirigent les cuisines. Que ce soit la cuisine, la pâtisserie, souvent la sommellerie. Ce sont des gens qui ont déjà eu une histoire avec nous, à un moment donné, ou toujours présents dans le groupe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 500 collaborateurs, on doit avoir 250 collaborateurs entre la cuisine et la pâtisserie, répartis dans tous les restaurants. Et c'est justement une façon aussi de manager nos équipes, c'est de leur proposer un parcours lorsque nos collaborateurs nous rejoignent. Alors la porte d'entrée, elle est multiple, hein. Ça peut être Valence, Lausanne, Paris, Londres, Megève. Mais une fois qu'on a capté un collaborateur, qu'on l'a intégré à nos équipes, l'idée, c'est de pouvoir lui proposer un parcours au sein du groupe. Et dans l'état actuel, c'est essentiel, parce qu'on essaie d'inscrire nos collaborateurs le plus longtemps possible dans le groupe, en les faisant évoluer au fur et à mesure des prises de poste dans les restaurants. Et quand on ouvre un restaurant, c'est quand même plus confortable d'avoir des gens qui connaissent la cuisine Anne-Sophie, qui ont travaillé avec elle et qui en sont les parfaits ambassadeurs une fois sur place. On a eu refusé des restaurants, d'ouvrir des restaurants dans le passé parce qu'on n'avait pas les collaborateurs pour ça. On a préféré dire non plutôt que de prendre le risque d'embaucher un chef, de lui montrer en un mois la carte du restaurant pour l'ouverture et de prendre le risque finalement de ne pas être cohérent avec l'ensemble des restaurants de notre univers et d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si aujourd'hui on n'a fermé aucun de nos restaurants, c'est bien parce qu'on a toujours traité très sérieusement nos ouvertures avec la qualité de nos collaborateurs que l'on faisait grandir au fur et à mesure des projets. Et c'est comme ça que l'on voit les choses et maintenant c'est plus facile parce qu'on a plus de monde à nos côtés. Donc lorsqu'on a une ouverture en tête et un projet qui arrive, on arrive tout de suite à voir qui on va pouvoir faire évoluer vers ce projet-là. Et je dirais que c'est plus confortable aujourd'hui de répondre positivement à des projets qu'à une époque où on était un peu moins fourni en talent.
Et alors par conséquent, par rapport aux pénuries qu'il peut y avoir sur le marché du travail, et a fortiori dans l'hôtellerie-restauration, vous arrivez, grâce à cette politique justement de suivi, de construction de carrière, à limiter le turnover et à réussir à recruter. Enfin, comment, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés ou...
On a des difficultés, mais qui, pense, ne sont pas insurmontables. Valence est un peu moins concernée par les pénuries de personnel dans la mesure où c'est vraiment le vaisseau amiral, c'est ici que nous sommes. Donc on arrive à avoir des équipes complètes de partout tout au long de la saison. On n'a pas eu de grosses difficultés à avoir des équipes complètes. Après, on doit aussi, dans nos autres restaurants, adopter la même stratégie que ce que l'on fait à Valence, à savoir, à Valence, lorsqu'un talent se présente, on l'embauche. Donc ouais. on est en recrutement permanent.
Oui, c'est ça.
On n'est pas à ouvrir un poste une fois qu'on a une démission, à chercher la personne, à le recruter, à le former, à le mettre en poste. Non, lorsqu'on a un talent qui se présente à nous, on le recrute et on l'a fait à maintes reprises. Je dirais que c'est des rencontres aussi, des recrutements. C'est pas forcément parce qu'on a un poste qui est ouvert qu'on va recruter quelqu'un. On a des talents qui se présentent à nous, pour lesquels on n'a pas forcément de projet spontanément, mais en rencontrant la personne, en échangeant avec elle, on peut construire un poste autour de cette personne que l'on a rencontrée. Et on a un exemple qui est flagrant, c'est Paz Levinson, notre chef sommelier exécutif, qui, c'est vraiment le fruit d'une rencontre avec Anne-Sophie autour du tournage de À la recherche des femmes chefs. Et c'est parce que les deux ont bien matché que finalement on a dit, on va créer un poste pour vous autour d'Anne-Sophie pour diriger l'ensemble de la sommellerie du groupe, alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas spontanément en tête. Mais la rencontre a fait qu'on a créé ce poste pour elle et on l'a fait sur d'autres fonctions plus administratives parce que, on manage à l'affect. Voilà, c'est notre façon de faire. On est vraiment dans un management à l'affect parce qu'on essaye de transmettre quelque chose à nos collaborateurs qui comprennent qui on est pour grandir avec nous. Voilà. C'est vrai qu'on essaie d'inscrire les parcours dans la durée avec nos équipes et on a besoin d'avoir des gens avec qui on a quelque chose qui se passe, pas uniquement la relation employeur-employé, il faut qu'on puisse construire quelque chose avec eux et partager ça avec eux.
On partage des valeurs, on partage... Et en fait, on choisit, mais on est choisi aussi, forcément, dans le recrutement. Et c'est vrai que... Les dernières embauches qu'on a créées, ça a été comme ça, assez spontané. Et cette adaptation au fil de l'eau, et puis ça nous donne aussi envie, parce qu'on sait très bien que sur certains postes, on n'a pas peut-être encore les candidats idéaux et on ne se presse pas de faire le projet si... souvent, maintenant, on réfléchit de cette façon-là.
Oui, oui. Et on recrute. Et ce que j'aime recruter aussi, notamment sur les fonctions un peu plus corporate, c'est des gens qui ne viennent pas de notre univers. Pour moi, c'est très important parce qu'on a un regard trop formaté sinon. On embauche des gens trop formatés et on a besoin de s'ouvrir sur des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même expérience que nous, qui n'ont pas la même histoire que nous et qui apportent un regard différent à notre métier. Et ça, pour moi, c'est essentiel. On a recruté un DRH qui vient de nous rejoindre il y a 3-4 mois. On a mis un an à trouver le bon profil. C'est quelqu'un qui vient de chez Hermès, donc qui a eu à diriger des talents manuels, donc des artisans. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'apporter cette vision d'une autre industrie, mais avec des points communs incroyables. Et ça apporte une richesse extraordinaire au management dans l'entreprise d'avoir quelqu'un comme ça qui est arrivé et qui a un regard qui découvre et par son étonnement nous apporte des nouvelles clés qu'on n'avait pas forcément en place. Ma directrice générale, qui est une consultante de cabinet de consultants. Lorsqu'on s'est rencontrés, elle ne connaissait absolument pas l'univers de la restauration et c'est moi qui l'ai formée, c'est moi qui l'ai fait grandir. Et son regard très analytique, elle l'a apporté à notre industrie. Et ça, je trouve que ça nous a beaucoup fait grandir aussi dans les années passées.
Et alors, en cuisine, Anne-Sophie, on se pose la question, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a cette fonction de chef égale leader? Ou comment vous travaillez, vous, en cuisine, avec vos collaborateurs, dans le cœur du métier?
En fait, c'est très simple dans le sens où c'est aussi dans un acte de sincérité. de pousser les limites de la connaissance, de curiosité. Donc moi, je pousse vraiment mes chefs à être toujours curieux, sur, que ce soit sur les ingrédients, sur les nouvelles techniques, donc qu'on puisse créer tout ça ensemble. Et c'est vrai que donc il y a plusieurs façons de les amener dans mon univers. Alors pour ceux qui ont grandi à l'intérieur de cet univers, c'est plus simple. Mais pour ceux que je recrute à l'extérieur et qui découvrent mon univers, déjà ils viennent vers moi parce qu'ils ont envie de découvrir cet univers. Et aussi cet univers qui est assez riche dans les aromatiques, dans les ingrédients, dans les techniques aussi. Et finalement, c'est cette richesse-là qui attire aujourd'hui. Mais ça induit pour moi d'être toujours en recherche, en curiosité, et à pousser les limites de ma connaissance aussi. Et chaque année, voilà, au début de chaque année, je me lance des challenges. C'est-à-dire que pour moi, il y a des territoires inexploités encore, des choses que je ne sais pas encore faire ou que j'ai envie de connaître mieux, des produits. Et je suis tout le temps en train, et je pense que ça, c'est le propre de l'autodidacte, de toute façon, c'est sûrement induit avec mon parcours d'origine, c'est de vraiment pousser tout le temps les limites. Et je crois que ce dynamisme-là qui est créé au sein de la maison, que ce soit en cuisine, mais en pâtisserie, que ce soit en sommellerie, c'est aussi ce qui crée la dynamique de la maison et qui aujourd'hui fait que, entre guillemets, l'esprit est joyeux et aussi il y a une implication très importante de nos équipes qui sont très jeunes et pourtant très, très, très impliquées. Le décloisonnement aussi qui a pu être fait durant ces dernières années entre tous les services, et pour moi ça a été vraiment un leitmotiv, c'est-à-dire faire en sorte que le pâtissier parle au sommelier, parle à la cuisine, parle à la mixologie, enfin le fait que tout le monde se parle, utilise aussi par moments les mêmes outils, et voir les mêmes ingrédients, bien sûr, ça crée une dynamique aussi extraordinaire parce que ça crée aussi des savoir-faire et tout ça est partagé et mis en commun. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très positif aussi que j'ai développé. Et puis les chefs, comment ça fonctionne ici à Valence, comme disait David, la maison mère, c'est ici que tout se passe. Et les chefs, je les sors régulièrement du restaurant où ils sont au quotidien, où ils travaillent. Pour moi, mais pour nous, mais au quotidien, pour pouvoir venir travailler ici à Valence. Donc là, par exemple, aujourd'hui, enfin cette semaine, je travaille sur les cartes d'automne assez vite en août, parce que l'automne arrive très vite, il y a beaucoup de restaurants. Et là, on travaille sur les nouveaux plats de l'automne. Donc là, je commence cette semaine avec le chef de Lausanne, et fin de semaine, ce sera le chef de Paris. Et ensuite, ils viennent les uns et les autres. Alors, ça demande en amont un travail très précis, de tisser vraiment les trames aromatiques. Alors, soit je corrige les leurs, soit je leur donne les miennes et on construit ensemble. Là, aujourd'hui, on a commencé à construire, on a changé de trame. Enfin, voilà, c'est tout un travail de réflexion très important. Et c'est le départ du plat. Donc, il faut que le départ du plat, il soit très fort, très, très réfléchi. Et après, il y a 1000 étapes, entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup d'étapes qui contribuent, qui constituent la création du plat, mais il faut être à toutes ces étapes-là, et c'est un accéléré de création de plat quand les chefs viennent. Par contre, en amont, il y a une réflexion qui est portée, qui est très importante. Ça veut dire planifier, organiser beaucoup, pour pouvoir laisser place à l'improvisation aussi, et à la rêverie, parce que la cuisine, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est une intuition, et après, il faut pouvoir mettre en musique tout ça, et ça demande relativement beaucoup d'énergie. Donc j'ai un chef dédié à la cuisine des essais qui est vraiment celui qui fait la liaison, le chef qui vient de l'extérieur et moi, donc on est trois pour travailler sur ces plats à chaque saison. Valence étant tout à fait particulier parce que c'est une réflexion qui est portée constamment. C'est le restaurant 3 étoiles, donc c'est là où probablement j'ai entre guillemets le plus de pression pour 3 étoiles, c'est... C'est un niveau particulier, donc il faut le temps de la réflexion et le temps de précision pour faire ces plats-là. Mais ça induit aussi la création des visites, des dégustations constantes, des ateliers où on déguste aussi beaucoup. Mais que ce soit sur le café, on est formé constamment. En fait, ce qui est intéressant aussi pour garder nos équipes, c'est de les nourrir. Il faut les nourrir entre guillemets aussi avec les ingrédients, les techniques, et il faut qu'il y ait toujours cette dynamique là qui soit entre moi et les équipes pour qu'ils soient motivés pour rester aussi, pour construire encore avec nous et après leur donner d'autres...
Et surtout les services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a souligné Anne-Sophie, il y a une ouverture des services entre eux, il y a moins de cloisonnement.
Ouais.
Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, nos clients viennent dans nos maisons pour vivre une expérience. Ils ne viennent pas chez nous pour manger. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Et cette expérience-là, elle a du sens si tous les acteurs sont impliqués pour un même objectif. Et d'ouvrir la cuisine, c'est-à-dire que les clients puissent venir voir en cuisine comment les choses se passent, qu'en salle, on puisse parler de la cuisine, montrer des produits. Donc il y a cette interaction permanente entre tous les services. Et puis, c'est pareil avec la pâtisserie, avec la sommellerie, avec la mixologie aujourd'hui. Il y a tous ces métiers qui sont ensemble, doivent contribuer à faire vivre une expérience un peu unique, même complètement unique aux clients. Et ça passe par ça, ça passe par ça.
Et la gastronomie française, elle a un ADN qui est très très fort, donc il faut conserver cet ADN parce que, alors on parle beaucoup de durabilité, mais la cuisine française, l'essence même de la cuisine française, c'est ça. Quand on travaille un ingrédient, on travaille les arêtes de poisson pour faire un fumé, pour faire une sauce, enfin voilà, donc c'est par essence même la cuisine française, une cuisine extrêmement durable. Et il faut transmettre ça aux équipes, mais il faut aussi qu'ils soient très investis dans le sourcing. Et ça, moi, j'ai vu, après le confinement, une explosion de volonté de tous mes chefs d'aller sourcer aussi avec moi. Mais c'est une chose sur laquelle j'ai été vraiment très concentrée les 20 dernières années de ma vie. C'est-à-dire que, pour moi, faire une bonne cuisine, c'est trouver le produit, c'est aller chercher et créer du lien aussi avec les producteurs, les éleveurs, créer un lien de confiance qui soit assez particulier. Donc ça, maintenant, c'est tellement évident de le dire, mais... Ça n'a pas toujours été le cas et la saisonnalité est au cœur vraiment de notre travail. Même s'il y a un produit qui va durer 2 semaines, il faut arriver à le capter, à l'utiliser. Donc ça, c'est aussi cette adaptation-là à le moment présent de façon ultime.
Et donc vous êtes à la tête d'une maison donc de 500 et quelques collaborateurs. Parfaite parité homme-femme à la tête de la maison. Comment ça se passe à l'intérieur donc de du groupe ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous veillez, qui n'est pas évidente à...
On ne fonctionne pas en quota. Mais vraiment, aujourd'hui, on est ouvert à tous les profils, quels qu'ils soient. On a, que ce soit le...
Oui, la chef sommelière qui est une femme.
Oui, en fait, c'est les talents. Et aujourd'hui, on voit ça avec un œil extrêmement... optimiste de voir une arrivée féminine dans ce métier-là massive. On voit dans les écoles hôtelières beaucoup plus de femmes que d'hommes en apprentissage. On est entouré, enfin moi, je, au-delà des fonctions administratives, de réception, je vois en cuisine, en pâtisserie, en salle, de plus en plus de profils féminins qui se démarquent aussi. Même en dehors de chez nous, lorsqu'on fréquente des restaurants, on voit toujours un ou deux talents féminins qui sortent du lot et qui rayonnent dans la salle. Donc je suis assez optimiste de voir cette féminisation. Alors on le dit, mais on ne devrait même pas le dire, c'est juste que notre métier est de plus en plus ouvert aux femmes parce qu'elles ont vraiment, vraiment une place à prendre. À jouer et à prendre.
Ben, ça n'a pas toujours été le cas,
C'est très récent dans notre histoire de la restauration. Ça fait vraiment 15 ans aujourd'hui que les femmes trouvent leur place progressivement, beaucoup plus.
Ouais, peut-être même moins, hein, parce que, je veux dire...
On voit des profils qui arrivent depuis une quinzaine d'années, mais en nombre depuis 7-8 ans.
Ouais.
Mais après, il faut savoir faire grandir les gens aussi. Et ça, c'est un point... On s'est très vite rendu compte que finalement, on pouvait créer une cassure dans la carrière d'un collaborateur. Donc bien sûr, on recrute des gens, on les fait grandir. Et à un moment donné, ces gens-là vont devenir managers. Sauf qu'on ne leur a jamais appris à être manager. Et ça, pour nous, ça a été des constats d'échecs dans le passé où on a voulu mettre trop vite des collaborateurs aux responsabilités parce qu'ils étaient d'excellents techniciens, que ce soit en cuisine, en salle, en pâtisserie. Et ils se sont retrouvés du jour au lendemain à diriger une équipe, à organiser une équipe, et ça, ils ne savaient pas faire. Et donc, on perdait ces collaborateurs parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient un mal-être qui apparaissait avec cette promotion. Donc ça fait 7 ans bientôt, que l'on met en place une formation de manager en interne pour 10 collaborateurs suivis tout au long de l'année à travers un programme que l'on a écrit avec un cabinet extérieur et qui prend 10 personnes amenées à prendre des responsabilités dans le futur de tous les services, hein, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, en salle, en sommellerie, dans les étages, à la réception. Et ces gens-là, on leur apprend, on leur donne les clés du management. Et on a eu des surprises incroyables dans le bon sens, où on a des talents qui se sont révélés et qui ont performé vraiment lorsqu'ils ont été promus chef de service ou juste voilà ou simplement cadre, amenés à diriger d'autres collaborateurs. Et ça, c'est très important parce que finalement, ce cap, ce passage de cap, s'il est mal préparé, il peut être vraiment contre-productif. Et pour nous, c'était vraiment une révélation que de mettre ça en place. Et surtout, dans notre organisation, avec des ouvertures à l'étranger et en dehors de Valence, on avait besoin aussi d'avoir un panel de collaborateurs capables de pouvoir prendre des responsabilités ailleurs également. Donc voilà, ça aussi, c'est une des choses que l'on a mises en place et qui a beaucoup contribué également à accompagner notre développement.
Sachant qu'on est là aussi, l'un et l'autre, et nos chefs de service aussi, qui sont devenus de bons managers, aussi au quotidien pour aider et pour guider, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'un regard extérieur, souvent, c'est plus facile. Et,
On n'est pas. Les clés du management, c'est difficile à transmettre. Quand ce n'est pas quelque chose d'inné. Et on avait besoin de qu'une personne dont c'est le métier trouve les mots. Et pousse, notamment sur des jeux de rôle, les gens dans leur retranchement pour qu'ils puissent apprendre aussi la façon dont on doit s'adresser à une équipe, dont on doit passer des ordres, faire des plannings, être juste avec les uns, avec les autres. Comme c'est pas inné, il faut l'apprendre.
C'est la justesse qui est importante. Et juste pour revenir sur la féminisation, c'est vrai qu'au-delà du fait qu'on est toujours heureux de voir des profils femmes émerger et qu'on va les soutenir pour celles qui sont dans le doute et qui se posent des questions, et bien sûr on a ce rôle-là aussi, a fortiori pour moi, qui compte beaucoup, il y a aussi cet effet de complémentarité qui est très intéressant aussi dans les équipes, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de genre, c'est une question de complémentarité, c'est très important que les gens qui travaillent ensemble s'entendent bien, donc on est là vraiment pour lisser les choses au maximum et comprendre ces interactions-là, mais chez nous, ça n'a jamais vraiment posé un problème, le fait d'embaucher des femmes par rapport aux hommes, parce qu'on n'a jamais fait de différence de salaire, ça n'a jamais été notre fonctionnement dès le départ. Donc on peut être choqué par moment d'entendre que certaines femmes ne pourraient pas avoir le même salaire qu'un homme, parce que nous, ça ne se pose vraiment pas de cette question. Enfin, cette question ne s'est jamais posée chez nous. Donc voilà.
On a une grille, point.
Voilà.
Mais je voyais aussi que vous intervenez dans des conférences éventuellement, oui. Vous donnez des conférences. Et c'est vrai qu'on ne peut pas éluder le fait qu'il y a votre rôle de modèle, en quelque sorte, comme femme, la femme la plus étoilée au monde quand même, c'est pas rien. Donc comment vous l'appréhendez justement ce rôle de modèle, en tout cas d'exemple à suivre ou qui peut guider ou donner espoir en tout cas. Est-ce que vous vous exprimez là-dessus et dans les conférences
Bien sûr. Non, mais pour moi, c'est essentiel de transmettre. J'ai manqué probablement aussi de confiance quand j'étais jeune et j'aurais voulu avoir des chefs qui puissent, mais je n'osais pas, j'étais trop timide pour aller demander de l'aide. Donc j'étais très bien coachée par mon voisin. Et puis j'avais aussi, entre guillemets, quelques chefs, des gens comme Paul Bocuse, tout ça, qui m'envoyaient des petits messages régulièrement, faisaient passer des messages, mais il n'y avait pas... et j'admirais aussi d'autres chefs masculins et féminins, d'ailleurs. Moi-même, ayant vécu ça, dès qu'on me demande un conseil, mais je suis tellement heureuse de transmettre, d'aider, de dernièrement, on a Espirolet qui est la chef du Bocuse d'Or qui va concourir pour le Bocuse d'Or. La chef française qui va concourir pour le Bocuse d'Or est venue donc la semaine dernière déjeuner au restaurant. Et vraiment, le but c'est de transmettre mon savoir-faire. J'ai toujours, enfin, pas elle en particulier, mais en règle générale, on va dire, c'est vraiment de guider et de transmettre ce qu'on sait. Parce que j'ai toujours pensé que J'étais choquée quand j'étais plus jeune de savoir que les livres de cuisine qui étaient faits par les chefs ne nous transmettaient pas les vraies recettes. Enfin, mais quelle idée saugrenue, mais franchement. Quand on ne transmet pas son savoir-faire il meurt avec nous. Et c'est terrible de savoir ça. Donc tout ce qu'on a pu acquérir durant sa vie, si on ne le transmet pas, il s'évanouit. Donc voilà, et guider ces jeunes femmes aujourd'hui dans une forme de... Voilà, de je leur dis, appelez-moi, donnez-moi, dites-moi quand vous êtes... Et c'est vrai que j'ai de bonnes relations avec certaines jeunes filles qui commencent dans le métier et je suis tellement heureuse de transmettre. Donc c'est important pour moi de le faire de la façon la plus juste, la plus sincère possible. Donc bien sûr que je me sens investie par rapport à ça, non pas parce que moi-même je pense avoir fini ma carrière, au contraire, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir et je suis en train toujours de pousser les limites de ma connaissance, il y a tellement de choses encore à découvrir, mais j'ai un recul, bien sûr, de par mon travail, du temps passé en cuisine et des événements que j'ai pu vivre moi-même qui me permet de à la fois de guider aujourd'hui.
Et c'était, vous pensez donc quand même plus difficile pour vous en tant que femme d'avoir réussi à vous imposer dans ce milieu
Ben c'est toujours le problème de la légitimité en fait pour une femme qui se pose là et qui est pas bien quoi. C'est pas bien d'avoir ça en tête, mais malgré tout c'est là. Et pour moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que le souci de la légitimité, entre guillemets, savoir si j'avais ma véritable place était celle d'être en cuisine, si je la méritais, si j'étais digne de confiance, toutes ces choses-là, forcément, ça taraude, c'est là, c'est dans la tête.
D'autres chefs cultivaient aussi ce côté intrusion.
Oui, bien très sûr, clairement. J'ai pas senti que j'étais bienvenue.
Les débuts étaient très compliqués parce qu'il n'y avait pas une acceptation des chefs hommes de l'arrivée d'une femme. Alors que dans le passé...
Oui, mais on avait grand-mère.
Non, mais même avant, Mère Brasier, il y avait quand même des femmes 3 étoiles qui, en plus grand, parfois, au début, en plus grand nombre que les hommes.
Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que tous les chefs se révèlent d'une mère ou d'une grand-mère cuisinière, mais que quand il s'agissait à un moment donné, parce que je parle au passé, parce que les choses se sont beaucoup plus ouvertes, de solliciter, enfin de mettre en avant une femme, ça c'est très compliqué. Moi j'ai toujours dit, je pense être féministe, parce qu'une femme doit être féministe, ça c'est une évidence, mais j'ai toujours dit que les hommes devaient être féministes aussi, et croire à la femme aussi dans le travail, et voilà, alors c'est parce qu'on est une femme qu'on a des compétences, hein, comme pas un homme qu'on n'a pas de compétences, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire, tout le monde a des compétences, mais il faut rassurer et donner confiance. Et ça, quand on arrive, moi je vois les transformations de jeunes dans mes équipes, et je vois le moment où ils ont compris quelque chose, et la progression qu'ils ont, mais c'est un bonheur pour moi de voir ça. Immense, immense, parce que ça veut dire qu'on a contribué à leur épanouissement, à leur évolution, qu'ils ont compris des choses. Et là, aujourd'hui, ma chef de cuisine à Valence est une femme japonaise en plus. Donc, pour dire, pour une femme japonaise de diriger, c'est très compliqué. Et c'est une jeune fille qui est rentrée il y a 16 ans chez moi et qui a travaillé pendant 10 ans avec moi. Après, elle est partie, on peut voir ailleurs, mais... même plus 10 ans, elle est partie 3 ans de chez moi, elle est revenue en tant que chef. Donc c'est pour vous dire que voilà, je crois qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir, mais dans la passation de connaissances, c'est vrai aussi.
On a voulu aussi très vite diversifier nos métiers. Quand on est arrivé en 1992-93, on est arrivé en pleine, je dirais pas crise, mais ces moments où les restaurants gastronomiques commençaient à avoir un essoufflement et puis une baisse d'activité pour diverses raisons, notamment des règles un peu plus drastiques sur l'accueil de clients, notamment les laboratoires, les médecins. Enfin, il y avait toute une catégorie de clients qui, du coup, se retrouvaient empêchés dans les restaurants gastronomiques. Donc, il fallait aussi réinventer notre métier, lui rajouter des métiers complémentaires. C'est à ce moment-là quand on est arrivé, qu'on a construit l'hôtel, qu'on a rajouté le bistrot. Et puis...
Oui, tu dis, il y avait la crise du restaurant gastronomique.
Oui.
C'est-à-dire que, oui, qui était décrié, c'est-à-dire les restaurants gastronomiques étaient trop chers.
Étaient moins fréquentés, et puis voilà, c'est des sites. Ouais, donc, effectivement, les fréquentations de restaurants avaient baissé. Donc, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait avoir des métiers très complémentaires, enfin, des secteurs d'activité très complémentaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait donc, le restaurant 3 étoiles à l'époque gastronomique.
Qui a perdu
l'étoile. Mais après, on a construit l'hôtel, on a ouvert le premier bistrot. donc qui au départ s'appelait l'Auberge du Pain, maintenant c'est André. Entre-temps, il y a eu un autre restaurant, mais voilà, donc c'est des lieux qui évoluent en permanence, mais qui permettent de proposer une autre restauration. Puis après, on a imaginé la marque La Dame de Pique, donc qui permettait d'avoir une restauration moins formelle, plus décontractée, mais avec dans l'assiette une précision culinaire qui était dans notre ADN. On a lancé ensuite Daily Peak pour pouvoir proposer une restauration encore plus accessible avec des produits de qualité. Une école de cuisine pour contribuer à transmettre aussi et pour que le public puisse apprendre des recettes de chefs. Une épicerie avec des produits, donc toujours. Voilà, on a essayé de créer un écosystème autour du restaurant 3 étoiles pour finalement toucher une multitude de cibles différentes.
Courrier cadre, l'entretien.